10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'islam au présent, c'est un rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mamoun tous les samedis matins en direct entre 10h et 11h. Bonjour, bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver. Et peut-être que, si Dieu le veut, la semaine prochaine, eh bien, nous serons le premier jour du mois de Ramadan. Mais pour l'instant, le doute persiste, imam Abdelali.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit concernant ce jour qu'on appelle le jour du doute, « Man sama yawma shakki faqad asa abal qasim ». Celui qui jeûne en pensant, en n'étant pas sûr que c'est bien le début du Ramadan, eh bien, aura désobéi au prophète. Il faut, pour qu'on puisse débuter le Ramadan, être certain que c'est bien le début du Ramadan. Et pour être certain, la seule règle, c'est de suivre les institutions musulmanes françaises.
Du pays où on se trouve.
Hein, comment ?
Du pays où on se trouve.
Voilà, alors en l'occurrence, on est en France, donc d'accord. Je parle des institutions françaises. Oui, bien sûr, ceux qui me... Ah oui, parce qu'il peut y avoir des personnes qui nous écoutent à l'étranger. En effet, là où vous êtes, voilà, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, vous nous écoutez, vous êtes en Algérie ou ailleurs, vous devez suivre les décisions prises par les institutions religieuses du pays dans lequel vous vous trouvez. Et nous, en France, c'est, bien entendu, à la Grande Mosquée, que se réunit tous les ans Monsieur le recteur Shamseddin Hafez, avec la coordination des fédérations dont fait partie la FAYACA, le Rassemblement des musulmans de France, Musulmans de France anciennement UIF, etc. Toutes ces fédérations se réunissent avec un certain nombre d'imams pour prendre la décision de débuter ou non le Ramadan samedi ou non, ou de le décaler au dimanche, puisque ça sera, Inch'Allah, vendredi qu'on vous donne rendez-vous pour venir nous rejoindre. Je crois que c'est autour de 18h, Philippe ? 19h.
C'est à quelle heure la réunion à la Grande Mosquée de
c'est
Paris ?
C'est après la Rassal, donc ça va être autour de 18h.
Bon, ben on sera là.
18h, ouais, je pense qu'il faut débuter. On va débuter l'émission à 18h. Et jusqu'à au moins.
Je vous donnerai les clés.
Voilà. Non, mais non, mais tu viens me rejoindre.
Je sais pas. Franchement, si je commence à vous voir la veille, je vais pas m'en sortir.
C'est vrai qu'il y a un verset qui dit Laysa ala al-a'raj harajun, wa la ala al-marid haraj. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte concernant celui qui est malade. Celui qui a un problème de dos et qui est
dispensé.
On a plein le dos, tu vois.
Et dispensé des missions du vendredi.
De tout.
Mais Adil Farkan m'a promis qu'il serait là, donc ça, c'est parfait. Donc, vendredi, on vous donne rendez-vous, donc, pour la traditionnelle nuit du doute. Je vous trouve quand même, parce que je vous l'ai dit, Mme Abdelali, je me suis fait interpeller toute la semaine, moins définitif que la semaine dernière, sur la date du début du mois de Ramadan, quand même.
Tout à fait, tu as raison, parce que moi, si tu veux, quand j'entends le conseil théologique et scientifique des musulmans de France, qui a décrété le Ramadan le 2, le conseil des imams de Lyon, qui a décrété le Ramadan le 2, c'est-à-dire, je parle de samedi, la Grande Mosquée de Paris, qui a décrété le Ramadan le 2. Donc, je suis plus à tendre à penser que le Ramadan va débuter le samedi 2.
Bon.
Donc,
mais dans soir, certains autres pays du monde, grands pays musulmans...
Non, mais simplement par rapport au calcul astronomique, c'est-à-dire si on se fie à la vision oculaire, il est très peu probable que le vendredi soir, la lune soit visible
ces pays-là. C'est ça que ça veut dire.
Mais voilà. La question, c'est que souvent, même quand la lune n'est pas très probablement visible, il y a toujours un pays qui vient et qui dit voilà, le Ramadan, par exemple, ça sera peut-être la Mauritanie, ça sera peut-être. En tout cas, il faut que ce soit un pays qui est à l'ouest. C'est lui qui doit annoncer, parce que plus on gagne du temps, plus on est du côté de l'ouest, on gagne du temps, plus on a de chances à ce que la lune soit accessible. Et plus on est vers l'est, et moins on a de chances de pouvoir, on va dire, visionner à l'œil nu ou avec un télescope le croissant lunaire. Donc il y en a qui pensent que non, le Ramadan ne débutera pas samedi, mais bien dimanche. Donc le doute persiste.
Ça c'est bien.
Voilà.
Ah.
C'était moi qui te rappelle à un moment donné.
Moi, je préfère le
charme du doute, le Ramadan qui se fait désirer, que tout le monde attend, est aux aguets, ce jour-là, Allah, tout le monde appelle les imams, tout le monde va à la mosquée pour savoir si c'est le Ramadan ou pas le lendemain. Ça, c'est le charme du Ramadan.
Eh ben voilà, qu'on garde ce doute.
Voilà, il s'impose. Bon. Il vient pas dire, tout le monde va jeûner le 2, allez, on commence et puis c'est tout. Et non, c'est vrai que moi, je pense que effectivement, c'est bien et peut-être que ça sera libre. Dimanche, malgré tout. Et si on doit débuter dimanche, eh bien, tant mieux, pourquoi pas.
Ramadan bon, en tout cas, vous le savez, tous les ans, Beurre FM est la première radio qui vous donne en direct l'annonce du mois de Ramadan. Donc rendez-vous le vendredi et vous aurez l'annonce en direct par Chemseddine Hafiz, qui est donc le recteur de la
et
mosquée de Paris.
Grâce à notre merveilleuse intermédiaire et reporter sur le terrain.
J'ai une candidature. Tiens, il y a Mona qui m'a demandé
si elle pouvait aller à la mosquée de Paris.
Voilà, Mona m'a dit, est-ce que tu penses que je peux aller à la mosquée de Paris vendredi soir, c'est quand même une soirée spéciale.
Oui. Elle me dit, oui. Et comme c'est pas dans la salle de prière, voilà, et que c'est dans la grande salle de réunion, tout le monde y a accès. Donc le problème c'est qu'ils la connaissent pas et la difficulté elle est là.
Elle est pas timide, je vous rassure.
Par contre Vanessa, tout le monde la connaît là-bas. Dès qu'elle arrive, tout le monde sait que c'est Beurre FM derrière. Vanessa égale Beurre FM. Alors que Mona, elle manque un peu de notoriété.
Mona, c'est l'avenir.
C'est l'avenir, Charles.
Bon, alors deuxième.
Elles peuvent y aller toutes les deux. Hein,
deuxième débat qui a vraiment cette semaine j'en ai eu pour. C'est pour ça que j'ai eu mal au dos. Cette question qui revient sans cesse, mais tous les ans pendant le mois du Ramadan.
Est-ce qu'on peut se brosser les dents?
Non. les conditions de validité du jeûne, et est-ce que le fait de ne pas prier, ça invalide le jeûne du mois de Ramadan? Et alors là, j'avais la tête comme une soupière.
Voilà. Bon. Alors, d'un point de vue juridique, il existe un certain nombre de rituels qui sont liés à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des rituels qui ne peuvent être validés que par d'autres. Par exemple, pour valider la prière, il faut avoir fait ses ablutions. Donc, le rituel des ablutions est une condition de validité de la prière.
Si on ne fait pas ses ablutions, la prière n'est pas valide.
Voilà. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, si on dit, est-ce que je suis obligé d'être dans l'état de pureté, de tahara, comme on dit en arabe, pour pouvoir valider mon jeûne? Ben, la réponse est non. Puisque la purification, ou les ablutions, ou les grandes ablutions, par exemple, moi, je me réveille le matin, j'ai eu une relation la nuit, je me réveille après le fajr. C'est-à-dire, je débute le ramadan alors que je suis en état d'impureté majeure. Ou d'indisposition majeure. Est-ce que mon jeûne est valable? Bien sûr qu'il est valable, puisque la purification n'a rien à voir avec le jeûne. La purification, le fait d'avoir fait ces grandes ablutions ou petites ablutions, n'a aucun lien avec le jeûne du Ramadan. Par contre, il a un lien avec la prière, bien entendu. Maintenant, est-ce que la prière est en lien avec le jeûne? Bien sûr que non. Il n'y a aucun lien juridique qui impose à ce que, ou du moins qui impose et qui permet de valider le jeûne par le biais de la prière. Alors, d'où vient cette polémique? Elle vient de certains avis religieux qui considèrent que ne pas faire la prière, ce n'est pas simplement quelque chose qui va invalider le jeûne, c'est quelqu'un qui vous sort de la religion. C'est-à-dire que vous n'êtes plus musulman en ne priant pas. Parce que c'est l'avis de l'école Hanbalite, par exemple, qui est aujourd'hui suivi par une grande majorité de savants d'Arabie Saoudite, de l'école salafiste, par exemple, qui considèrent que de ne pas prier fait de toi un mécréant. On rentre dans le takfir à ce moment-là. Le takfir, ça veut dire jeter l'anathème et dire que quelqu'un n'est pas musulman quand il ne prie pas. Nous disons l'avis des trois écoles juridiques musulmanes, malikite, hanafite et shafi'ite, qui disent que celui qui ne prie pas et qui prononce la shahada, il reste un musulman. Ce débat-là, Philippe, entre eux, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, est-ce qu'ils sont musulmans ou pas, il a eu lieu déjà à l'époque ancestrale. Il y a eu un dialogue entre l'imam Ahmed qui jette l'anathème à celui qui ne prie pas et l'imam Shafi'i qui ne jette pas l'anathème. C'est-à-dire qu'il le garde dans la sphère de l'islam. L'école Shafi'i. Je parle de l'imam lui-même. L'imam Ahmed a dit à Shafi'i, celui qui ne prie pas, eh bien, c'est un mécréant. Parce que le prophète a dit, Al-ahdu alladhi baynana wa baynakum as-salah fa man tarakaha faqad kafar. Le pacte qui est entre moi et vous, c'est la prière. Celui qui ne la fait pas, il n'est plus musulman. Et il est kafir, ça veut dire. Kafir, ça veut dire non musulman. Alors, l'imam Shafi'i interroge Ahmad, lui dit, d'accord, ok, et s'il fait la tauba, il veut redevenir musulman, il doit faire quoi? Ahmad répond, il doit prononcer la shahada. Et là, Shafi'i lui répond, mais il a toujours prononcé la shahada. Il l'a jamais arrêté de la prononcer, cette shahada. Pourquoi tu dis qu'il faut prononcer la shahada, alors que de toute façon, il la prononce, il dans son cœur, elle est bien ancrée. Il attestation de foi pour lui.
Et de toute façon, si on la prononce une fois, ça suffit.
Oui,
pas besoin de.
Exactement. Bon. Et même Chavez lui dit, mais il l'a toujours prononcé. Et quand on lui dit, est-ce que tu crois et qu'il n'y a que Dieu, qu'Allah et que Mohammed est son messager, il répondra toujours oui. et il sera même capable de la répéter. Donc à ce moment-là, pour chaque prière qu'il fait pas, il devient mécréant, il faut qu'il prononce la shahada derrière pour redevenir un musulman. C'est complètement absurde. C'est ce que dira Shafi'i à l'imam Ahmed. Et l'Ahmed n'aura pas d'autre choix que de se taire et d'admettre que Shafi'i avait raison. Et donc celui qui ne prie pas reste un musulman, même si c'est un musulman négligent. Il est bien entendu
voilà,
négligent.
Oui.
Mokasser, et donc à ce titre-là, il est dans une situation délicate, borderline au niveau de sa foi. Puisque ceux
borderline
qui... C'est-à-dire, il est il est sur le bord du précipice, quoi. Il est pas dans une situation de sécurité au centre de la sphère de l'islam. Il est dans les abords, puisque le fait qu'il ne prie pas pourra rapidement le dévier et le faire quitter la foi. Et en particulier s'il ne fréquente pas des gens qui font la prière, qui fréquentent pas des gens qui font le rappel et qui sont des musulmans. En tout cas, nous disons qu'il reste musulman tant qu'il prononce la shahada. Et que s'il meurt, eh bien, il profitera de tous les rituels des funérailles musulmans, islamiques. Donc, notamment, la toilette, le linceul, la prière à la mosquée, la prière funéraire, bien sûr, et l'enterrement dans un carré musulman, dans un cimetière musulman. Ça, c'est s'il prononce la shahada, même s'il ne fait pas la prière, même s'il buvait de l'alcool, même s'il pratiquait la fornication, même s'il commettait des grands péchés. Peu importe. Mais si à partir du moment où il prononçait la shahada, il est musulman. On n'a pas le droit d'exclure de la foi.
Même 5 minutes avant de mourir.
Quelqu'un qui prononce la shahada même juste avant de mourir a le droit de bénéficier de toutes les règles funéraires musulmanes s'il y a au moins 2 témoins qui l'ont entendu prononcer la shahada.
Ce qui veut dire, et si j'ai bien compris donc, Imam Abdelali, ce que vous voulez nous expliquer, c'est que la prière n'est pas une condition de validité du jeûne.
Tout à fait. Et donc,
en tant que rite, voilà.
Même le jour du jugement dernier, Dieu ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir jeûné, puisqu'il aura jeûné. Il pourra lui reprocher de ne pas avoir fait la prière, mais il pourra pas lui dire « Ah ouais, mais puisque ta prière n'était pas accomplie, donc tout ton jeûne n'est pas valable. » Non. Dieu est juste dans sa grande justice. Il fait la différence entre celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas. Mais bien entendu, la première des choses qui sera examinée le jour du jugement dernier, c'est la prière.
Gros sujet de conversation cette semaine. Est-ce que tu as fait les 3 jours blancs?
Est-ce que moi j'ai fait les 3 jours blancs? Ouais. C'est à moi que tu poses la question.
Non, moi on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu as fait les 3 jours blancs? Alors moi j'ai dit, je coune les 3 jours blancs.
Alors les 3 jours blancs, on parle des 3 jours blancs de chaque mois du calendrier musulman, ouais, que sont le 13, le 14 et le 15 de chaque mois. Et le mois de Sha'ban en particulier, beaucoup, le Sha'ban c'est le 8e mois.
C'est le mois où on est maintenant.
Voilà, c'est le mois qui précède Ramadan. Et comme il y a ce qu'on appelle la nuit de la mi-Sha'ban, Laylat al-Nisf mi-Sha'ban.
Donc ça doit être la pleine lune.
Voilà, c'est une nuit de pleine lune, tout à fait. Bien, souvent, les gens se consacrent à l'adoration parce que cette nuit-là, selon certains hadiths faibles, c'est une nuit bénie qui a plus de d'avantages que d'autres nuits de l'année. Et donc, sa journée, il est recommandé de la jeûner, selon, bien entendu, certains savants qui se basent, je répète, sur des hadiths qui sont faibles. Donc, c'est pour ça qu'on n'en entend pas trop dans la bouche des imams.
Mais moi, je trouve que c'est de plus en plus populaire comme sujet.
Parce que les gens deviennent de plus en plus instruits dans leur religion et dans les moindres détails.
Et aussi, il y a les réseaux sociaux, il y a les SMS exactement qui circulent. Donc, finalement, bon.
C'est tout, hein, c'est juste pour ça.
Donc, c'est 3 jours blancs.
C'est ça déjà depuis.
Ouais, donc, les 3 jours blancs, ce sont les jours de mi-mois.
De la mi du mois, de chaque mois.
D'accord.
Ce qu'on appelle Ayyam al-Bird.
Donc, il faut déjeuner.
La pleine lune. Pourquoi on dit blanc? Parce que c'est la lune est toute ronde et blanche et bien brillante dans le ciel. Et il est recommandé ces 3 journées, on parle des journées, de les jeûner le 13, le 14 et le 15 du mois, où il y a bien sûr le soir une pleine lune qui nous fait face dans le ciel.
Donc, il sait quoi? Alors, quel est le statut de c'est recommandé?
Recommandé, bien sûr. Voilà. C'est un acte recommandé. Le prophète ne le délaissait que rarement. Il jeûnait tous les. Il disait, le prophète, que celui qui jeûne 3 jours pour chaque mois, Ayyam al-Bid, c'est comme si qu'il avait jeûné toute l'année. Hein, puisque 3 jours sur 30 jours, comme 3 jours, Dieu récompense 10 fois la valeur de chaque action par 10. Donc, il multiplie par 10 la récompense. Donc, 3 fois 10, ça fait 30. Ben, c'est comme si que tous les mois, tu avais jeûné 30 jours. En jeûnant que 3 jours, tu as la récompense de 30 jours. Donc, si un mois il y a 30 jours et que tous les mois tu fais ça, finalement, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Et donc, tout le temps.
Oui, mais
en jeûnant que 3 mois.
Mais ça ne dispense pas de jeûner pendant le mois du Ramadan parce que c'est un pilier.
Voilà. Bien sûr. Le Ramadan reste une obligation pour chaque musulman, chaque musulmane qui est saine d'esprit, en bonne santé et sédentaire. Voilà la règle. En bonne santé, sain d'esprit et sédentaire. Si une de ces trois-là n'est pas n'est pas réelle, n'est pas concrétisée, eh bien cette personne-là est exemptée de jeûner. Si elle est malade, elle est exemptée. Si elle est indisposée aussi, hein, pour les femmes qui ont leurs règles tous les mois, ou une femme qui vient d'accoucher, elle a ses lochies, ses retours de couche, elle aussi ne peut pas jeûner. Le voyageur ne jeûne pas. Et bien sûr, la personne qui a perdu la raison, c'est-à-dire qui est dans le coma, dans un hôpital, par exemple, en état de réanimation, et qui donc a été mis dans un coma artificiel, ou qui est vraiment dans un vrai coma, ou qui a perdu la tête, qui est devenu fou. Donc, qui n'est plus conscient du mois du Ramadan. Il n'a plus la conscience du Ramadan. Un trisomique, par exemple, 21, n'est pas véritablement conscient du mois du Ramadan. Il n'est pas concerné par le jeûne du Ramadan. S'il veut jeûner, il jeûne. S'il ne veut pas jeûner, il ne jeûne pas. Dieu, dans le Coran, dit « Faman shahida minkum shahra faliyasum ». Celui qui est présent, saint, avec sa tête, et conscient du Ramadan, doit le jeûner, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 185. C'est ça.
Ne me regardez pas parce que je ne le connais pas.
Non, c'est 185 de Sourate Al-Baqara.
Je ne peux pas vous le confirmer, mais je vais aller le vérifier pendant la pause. Et pendant la pause, vous pouvez composer le numéro du standard de l'Islam au présent si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun. Je vous rappelle que c'est le 01 53 48 3000. Vous connaissez bien ce numéro qui sera à votre disposition pendant tout le mois. 01 53 48 3000.
L'Islam au présent revient dans un instant. Heure FM, 10h, 11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, et pour répondre à la question que l'imam Abdelali Mamoun nous posait hors antenne, il en a eu 6 femmes.
Ah, bravo. On parlait d'Henri VIII.
Henri VIII, oui.
Henri VIII, qui a été excommunié par le pape, mais qui, malheureusement, le pape en a payé le prix fort. Voilà. Puisqu'il a été envahi, Rome a été envahie par, justement, ce roi Henri VIII, là, qui n'a pas apprécié qu'on l'excommunie parce qu'il avait répudié une de ses femmes.
Anne de Boleyn. Bon, alors, 01 53 48 3000, on a Ralil qui est avec nous. Ralil, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Yvan.
Salam alaikum.
Bienvenue. Alors, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, Ralil, enlevez-le, s'il vous plaît.
Oui.
Voilà, comme ça, on va bien vous entendre.
Parce qu'il est dans une voiture, il est dans une voiture, Ralil.
Voilà, super.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
J'ai juste une question à poser au Cheikh. En fait, je travaille dans une entreprise qui me propose de faire des placements d'argent.
Oui.
Allô ?
Oui, on vous écoute.
Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est autorisé ou non ?
Alors, quand vous dites placement d'argent, c'est pour des investissements ?
Pour acheter des actions.
Ouais, ouais. Le principe de placer de l'argent dans un but d'investissement, c'est autorisé. C'est-à-dire, on place son argent dans des sociétés qui travaillent. Ce sont des sociétés qui ont un rendement financier. Donc, il y a un rendement financier. Là, il n'y a pas de difficulté sur le principe. Je parle du principe. La difficulté, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont une activité qui n'est pas licite. Des entreprises qui vendent de l'alcool ou
des armes.
Des armes ou des jeux de hasard ou des choses qui ne sont pas licites. Donc le problème, c'est qu'il faut filtrer. Par exemple, si vous faites avec, Renault qui fabrique des voitures, il n'y a pas de problème. Vous faites avec Leclerc qui vend dans une grande surface. Bon, là encore, il y a aussi de la vente d'alcool. Donc c'est encore un petit peu douteux. Mais voilà, on va dire, imaginons une entreprise qui est totalement, qui n'a pas aucune activité illicite.
Total, qui vend du pétrole,
par exemple. Oui, oui, oui. Bien sûr, le pétrole, c'est pas haram. Ça permet de l'énergie. Voilà, par exemple, c'est l'assainissement, les nettoyages, tout ça, Veolia. Oui, c'est connu. Ouais, bah là, oui, il y a pas de problème, bien sûr.
Les ordures, c'est une grosse boîte.
Ouais, Veolia. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, il y a pas de problème. Donc il faut simplement sélectionner les entreprises à qui vous proposez à vos clients d'investir dedans. Voilà. Il faut pas que ça soit une activité illicite.
Si je me permets, même par rapport au choix des actions, parce qu'il y a des actions à risque, des actions où on ne risque pas de perdre grand-chose et tout, il n'y a pas...
Alors, si bien entendu on va rentrer dans les détails du domaine de la finance et je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de développer toutes ces questions-là de manière méticuleuse parce qu'il y a chaque situation, il faudrait analyser, c'est-à-dire mettre chaque situation sur la balance de la charia. Et on a des spécialistes en la matière qui sont ce qu'on appelle les Sharia Board Finance, et qui, eux, sont spécialisés dans ce domaine-là, même si j'ai déjà un petit peu, moi, un regard avec le temps, on a pu, on va dire, aussi analyser ce genre de situation. Mais là, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, si tu le veux bien, mon frère. Appelle-moi à antenne, je peux laisser mon numéro de téléphone, Inch'Allah, vous pourrez m'appeler si vous le voulez. Et on se renseignera pour savoir si chaque type de transaction est licite ou pas. Le 06 29 25 35 00, je le redonnerai tout à l'heure. Restez en ligne avec nous, Inch'Allah. Salam alaikum.
Merci beaucoup.
Merci Khalid. Je rappelle que c'est une question à l'imam Abdelali et cette année nous serons très vigilants. Ça permet à tout le monde finalement de pouvoir poser sa question puisque vous êtes nombreux au standard. Alors on a Siam qui est avec nous. Siam, bienvenue.
Oui, bonjour. Salam alaikum.
Wa alaikum salam, Siham.
C'est comme le jeune.
Alors Siham, non, Siham, ça veut dire la flèche.
Exactement.
Ça veut dire la flèche.
J'avais une question.
Siham, pas Siam. Siam, s'il n'y a pas de ha. Non, parce que Philippe, il entend Siam, parce que comme le ha n'existe pas en français, lui il confond le mot Siam avec le mot Siham. Tu vois, c'est. D'accord. Mais c'est vrai que l'arabe, c'est compliqué.
La flèche.
C'est la flèche, Siham, ouais. On n'appelle pas son enfant Siam Ramadan. Si je vois des gars qui s'appellent Salat, Zakat, ça ferait drôle.
Ah, y a bien des gens qui s'appellent Islam.
Ouais, carré, ouais. Et c'est n'importe quoi.
Bon, donc.
Ça, c'est pas bien d'appeler son enfant Islam. Personne à l'époque du prophète s'appelait Islam. On n'a pas appelé son fils Islam. Déjà, ça peut lui porter préjudice demain, dans l'avenir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Non, il vaut mieux prendre des noms conformes. Il y a des prénoms, chacun son pays d'origine et puis donne à son fils des noms propres à leur tradition, à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec la foi.
Siam, c'est donc à vous.
Oui, alors, j'ai une question concernant le ramadan. J'ai mon fils qui a un mois et demi, je l'allaite exclusivement, et c'était pour savoir est-ce que je dois jeûner ou pas.
Alors, il y a des cas de femmes qui ont une certaine corpulence assez importante, par exemple, et qui, malgré le jeûne, ne craignent pas que leur lait se tarisse. C'est-à-dire que le lait va diminuer au niveau de l'allaitement, ne va pas diminuer. Donc, celles-là, elles peuvent jeûner, bien sûr. Mais dans tous les cas, toute femme qui allaite a le droit de ne pas jeûner. C'est à partir du moment où une femme allaite est en mesure de ne pas jeûner, et elle verse la fidia, donc elle donne 5 € pour chaque jour non jeûné à un pauvre pour qu'il puisse combler au moins un repas d'une rupture ou bien un repas, l'équivalent d'un repas. Fidia tota'am ou miskin, comme le dit le Coran.
Ou est-ce qu'elle peut rattraper le mois du ramadan?
Tout à fait, mais à condition de le rattraper avant le ramadan suivant. C'est-à-dire si elle allaite, moi vous me dites ça fait un mois que vous allaitez, donc vous allez allaiter peut-être, Inch'Allah, j'espère pour vous, deux ans, c'est bien d'allaiter son fils le plus longtemps possible. Et donc si vous l'allaitez 2 ans, donc ça va arriver jusqu'au ramadan suivant. Donc vous n'allez pas pouvoir rattraper durant de l'année qui suit le ramadan non jeûné. C'est ça là l'important, il faut rattraper durant l'année, il faut pas accumuler les dettes de jeûne, d'accord. Faut pas cumuler, et après vous dites non, moi j'attends 2 ans pour rattraper deux mois de jeûne des 2 années qui sont passées. Non, on doit pas faire ça. On doit régler le problème du ramadan durant l'année. Ouais. Si on a, que ce soit qu'on était malade, ou qu'on était en voyage, ou qu'on allait notre enfant, ou qu'on a été indisposé, et bref, et tous les autres cas qui autorisent quelqu'un de ne pas jeûner, eh bien, vous devez régler cette affaire durant l'année. Soit vous jeûnez, parce que vous êtes en mesure de jeûner, soit vous payez la fidia.
D'accord.
Voilà. Mais pas les deux.
D'accord, très bien. Eh bien, barakallahu fik. Merci beaucoup.
Salam alaikum.
Et bon ramadan à tout le monde.
Salam alaikum.
Merci, Siam. Alors, Nadia est avec nous au 01 53 48 3000. Nadia d'Argenteuil. Nadia.
Oui, bonjour.
Salam alaikum.
Bonjour à tous.
Bonjour, Nadia. Ça va?
Oui, moi, ça va. Je vous appelle parce qu'hier, j'ai entendu une dame, elle parlait au téléphone, elle a dit à sa famille, Mabrouk wa shirkoum. Et la dame, elle lui a dit, non, il ne faut pas parler comme ça. Pas dire ça.
Pourquoi? Et c'est quoi son argument?
Moi j'ai toujours entendu ça, Mabrouk wa shirkoum, avant le ramadan.
Alors ça veut dire quoi?
Alors, Mabrouk, qu'est-ce que veut dire le mot awashir? Le mot awashir, c'est le pluriel de ashara. Ashara qui veut dire dizaine.
Oui.
Vos dizaines au pluriel. Mabrouk, ça veut dire que la baraka, que Dieu comble de baraka, vos dizaines. Et quand on parle de dizaines, c'est les trois dizaines du ramadan. Oui. C'est-à-dire que le ramadan est composé de 3 dizaines. Donc on dit Awashir Ramadan, Awashir Ramadan. Bon, ça c'est pas dans le langage islamique, hein, c'est dans le langage traditionnel, mais que l'islam tolère, puisque il y a pas de problème. Le ramadan il a bien 3 dizaines, donc il y a pas de difficulté à utiliser le terme Awashir, qui, je répète, n'est pas un terme ni prophétique ni coranique. On dit Mabrouk Ramadan, Mabrouk Siyam Ramadan, mais Mabrouk Awashir, ça n'existe pas. Mais est-ce que, parce que ça n'existe pas, on n'a pas le droit de le dire? Non, on a le droit de le dire. Pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire?
Il n'y a pas d'interdiction.
Non, on peut dire...
Voilà, moi j'ai toujours entendu ça.
Au contraire, c'est très bien si vous dites... Après, c'est, je vous dis, je vous répète, c'est selon les traditions de certains pays, notamment au Maghreb, ils utilisent cette formule pour dire, pour souhaiter un bon ramadan aux gens autour d'eux. Ils disent Mabrouk Awashirkom. Il n'y a aucune difficulté à utiliser cette expression. Et c'est celui qui veut l'interdire de ramener la preuve.
J'ai toujours entendu chez nous. Moi, j'apprends beaucoup de mon oncle. Mais en fait, quand j'ai été en Algérie en 2018, comme je vous avais dit la dernière fois, il était occupé à affectionner les murs de la grande mosquée de Marmina.
Malich, ma sœur, est-ce que c'est bon, on a répondu à votre question?
Non, voilà. Puis je voulais dire ma sœur, elle a été emmenée auprès des siens.
Allah yarhamha, ya Rabbi wassa alayha.
Elle a été rapatriée, c'est ça?
Non, elle est décédée.
Bah, 20 mois après, elle a été rapatriée, parce que mon frère, il a dit qu'il a mangé des choses.
Ah, d'accord.
Vous n'avez pas suivi l'histoire, Imam Abdelali.
Ah oui, qui a donc demandé pour qu'on puisse rapatrier son corps en Algérie, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et donc, ça a été fait, il y a un mois.
Et hop, sahatkoum.
Merci beaucoup, Khaled,
merci. Merci, Nadia, pour votre appel. Alors, on a Nouria qui est avec nous au 01 53 48 3000. Nouria, vous êtes la bienvenue.
Oui, bonjour, salam alaikum, vous allez bien?
Salam, bien et vous?
Ça va, alhamdoulilah, merci. J'ai une question, donc je voulais savoir, j'ai toujours fait le ramadan, ma prière et tout ça, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant. Et là, j'ai un gros problème, j'ai fait une rechute, une grosse dépression, et je suis en arrêt depuis le 12 octobre. Donc j'ai arrêté de manger et tout ça, l'estomac a été fermé, c'est vraiment une dépression énorme. Et là, j'ai commencé à travailler à temps partiel, normalement le 1er mars. Mmh. Et j'ai eu un choc violent. J'ai perdu la mémoire une journée. J'ai oublié mes enfants, j'ai tout oublié. Je devrais être dans un hôpital psychiatrique. Malheureusement, j'ai un bon médecin qui a refusé que je sois hospitalisée. Dans
on va dire heureusement, pas malheureusement.
Voilà, heureusement, ouais. Et donc, j'ai une copine, comme une grande sœur, tout pour moi, qui m'a pris en charge. Mm-hmm. Donc là, je voulais savoir pour le ramadan. Donc, je prends des antidépresseurs. Là, je suis en temps partiel thérapeutique. Donc, en fait, question ramadan, c'est pas question à manger, ni boire, ni rien de tout. Donc, comme par exemple, hier, j'ai mangé 2 morceaux de pizza. Là, ce matin, j'ai pas pu déjeuner. Donc, c'est plus par rapport
madame,
à la fatigue.
Madame, moi, attends. Pour répondre à votre question, la position de l'islam sur votre cas doit être prise par votre médecin traitant.
Ouais, le médecin, il m'a dit, faut pas le faire.
Eh ben, s'il vous dit de pas jeûner, vous ne jeûnez pas. S'il vous dit non, il n'y a pas de difficulté à jeûner, eh bien, vous pouvez jeûner. Et vous devez même jeûner. D'accord. Si le médecin vous dit, vous pouvez jeûner, vous êtes en mesure de jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil sans manger, sans boire, eh bien, vous êtes à ce moment-là obligé de jeûner. Si votre médecin vous dit, non, madame, votre situation physiologique et physique, vous êtes trop fragile, trop faible, vous risquez des rechutes, vous risquez ceci ou cela, à ce moment-là, bien sûr, vous ne jeûnez pas.
Voilà, parce que c'est les médicaments, ils sont décalés du matin et du soir, et donc, c'est ça le souci.
Madame, il faut voir avec le médecin. Quand on est malade, seul le médecin est habilité à décider de commencer le jeûne ou pas.
D'accord, ok. Et si je ne jeûne pas, je dois sortir le fédia ou je dois rattraper plus tard?
Ça dépend comment la chose.
Est-ce que c'est une maladie chronique ou pas?
Voilà.
Je suis déclarée maladie longue durée par la sécurité sociale.
Donc si vous êtes en LD.
Voilà.
Maladie longue durée, il m'a appelé. Voilà. Si vous êtes en ALD.
Si sa maladie dure jusqu'au ramadan suivant, prochain, elle risque. Bah à ce moment-là, elle n'a pas. Elle ne jeûne pas, elle risque que la fitia.
Elle n'est pas concernée.
Elle n'est pas concernée par le jeûne.
Voilà.
Désolé parce que j'ai eu un appel important.
Non, je sais qu'Imam Abdelali, vous êtes débordé. Vous devriez avoir une secrétaire.
C'est ta faute, tu me fais faire des trucs trop compliqués. Non, mais ça va, non, Philippe?
Bon, tout, merci Nouria pour votre question. Et puis prenez bien soin de vous en tout cas.
Merci, très bon Ramadan à vous.
À vous aussi, merci. Je plaisante avec mon frère Philippe. Hein, vous savez bien qu'on s'taquine tout le temps.
Il
n'y
a pas de souci, il faut plaisanter dans la vie. Hein.
Inch'Allah.
Merci.
Alaykoum salam.
Alors, les trucs spéciaux que je fais à l'imam Abdelali, je vais demander d'appeler le père Henri Fautra, voilà. Qui est représentant.
Vous voulez qu'il nous parle du carême.
Voilà.
Les gens ne connaissent pas que le carême.
Il y en a même qui disent carême. C'est le mois du carême.
Oui, ils disent le mois du Ramadan, ils l'appellent le mois du carême.
Qui est un jeûne aussi. Hein.
Mais c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas pareil. Donc, on a demandé au père Henri, qui est aussi responsable des relations islamo-chrétiennes du diocèse du Mans, de venir nous en parler pendant le mois de Ramadan. Et quelle est la différence de ce mois qui, ça dure 40 jours, hein, le carême. Ouais. Donc,
Après, il y a le Mardi Gras.
Oui, mais il y a une résurgence du carême aujourd'hui parce que beaucoup ont observé les musulmans faire le Ramadan. Et c'est vrai que maintenant, beaucoup de chrétiens se réapproprient ce mois de carême, ce mois de jeûne. Alors, on en parlera pendant le mois du Ramadan. Mm-hmm. Et si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, c'est très simple. C'est le 01 53 48 3000 que vous appelez. Mais je vous rappelle que ce numéro sera à votre disposition pendant tout le mois. Donc voilà, vous pourrez poser toutes vos questions à l'imam qui est bien sûr disponible pour vous, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, vous notez que vendredi, ce rendez-vous à partir de 18h avec Adil Farkan qui sera là pour la nuit. Du doute, hein, la nuit du doute en direct depuis la mosquée de Paris sur Beurre FM, vous aurez avant toutes les radios d'habitude. Et il faut savoir que cette soirée-là, il y a beaucoup de fake news qui circulent, donc l'annonce, elle se fait en direct. Il faut attendre le communiqué du recteur de la mosquée de Paris, mais qui le fera. Avant, c'est du fake. Ouais, donc il n'y a pas de communiqué qui circule avant.
Donc ça, c'est pas sûr que c'est samedi 2, le début du Ramadan. Voilà. C'est peut-être dimanche 3. En tout cas, c'est entre ces deux jours-là.
Bah oui, ça merci.
Voilà, mais c'est important pour que les gens comprennent.
Oui, à partir du moment où c'est la nuit du doute.
Voilà. Le lendemain, on jeûne ou pas? C'est-à-dire, c'est soit jeudi, samedi, on débute. Soit c'est le lendemain.
Soit le mois de Ramadan débute vendredi
mais
soir.
Mais on n'a plus besoin de communiquer après. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'on n'a pas besoin qu'on ait un communiqué pour débuter le Ramadan dimanche. Si on n'a pas jeûné samedi, on n'attend pas samedi soir pour avoir encore un autre communiqué, puisque le mois ne peut pas avoir plus de 30 jours. Voilà.
Alors, direction Saint-Étienne. Lydia, bienvenue. Bienvenue, Lydia.
Salam alaikum. Saint-Étienne.
Les
Stéphanoises.
Exactement, c'est ça. Je vous appelle pour une petite question.
Bismillah.
J'ai ma soeur qui est en samedi.
Allah, Inch'Allah. Il faut que j'aille, Inch'Allah, Yarab.
Amin. Et en fait, quand on lui met du courant ou qu'on lui demande de chahad, elle s'énerve. Je voulais savoir comment on peut faire pour l'aider.
Alors, justement, on ne demande jamais à quelqu'un en fin de vie de prononcer la shahada. Parce que elle est consciente qu'on lui est en train de lui demander ça, surtout si elle est saine d'esprit, que c'est parce que elle va bientôt mourir, et donc le fait qu'elle pense qu'on est en train de lui faire croire qu'elle va mourir, eh ben bien sûr, il y a la réaction spontanée du corps et l'instinct de survie de l'homme qui fait qu'elle va bien sûr réagir mal. Donc on ne fait jamais cela à quelqu'un qui est en train d'agoniser, de lui dire dis ashhadu an la ilaha illallah. On ne dit pas dis. On enlève le dit et on la prononce soi-même.
Mais là ils lui font écouter du Coran, c'est ça? Vous ne demandez pas de dire quelque chose?
Non, il y a les deux.
Voilà. Alors, au moment où il y a le Coran, si vous voulez lui faire dire la shahada, vous coupez le Coran. Et ce que vous faites, vous prononcez vous la shahada. D'accord? Et les personnes qui sont autour du lit, à son chevet, vous la récitez tous ensemble et vous la répétez plusieurs fois. Jusqu'à que la personne elle-même se prenne dans le jeu de la prononciation avec vous. Mais vous ne lui demandez pas on ne vous dit pas « dis la shahada, dis la shahada ». Parce que là, tout de suite, elle va se dire « ah ouais, vous pensez que je vais mourir, alors vous me faites dire la shahada ». Non, vous dites la shahada en lui faisant croire que prononcer la shahada, c'est une bénédiction, c'est bien pour toi, répète-la avec nous, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous ne demandez pas de dire la shahada. Vous la prononcez vous-même, en groupe, plusieurs fois. Ok.
C'est vrai que c'est normal qu'elle ne veut pas l'écouter, le Coran. Il n'y a rien de méchant si elle ne l'écoute pas. C'est pas parce
que non, on n'est pas obligé d'écouter le Coran, madame. Tout le monde n'a pas envie d'écouter tout le temps du Coran. Même le prophète n'écoutait pas ou ne lisait pas toujours du Coran. Il y avait chaque moment, il y a un moment de détente. On a besoin de penser à autre chose, de faire, de varier ces différentes, pensées, concentrations et écoute de ce qu'on a envie. Moi-même, la musique, je suis pas contre forcément. Je dis pas que c'est interdit d'écouter de la musique. Je dis la musique avec modération. La musique, c'est comme tout. Faut pas en abuser. Tout ce qui est halal, si on en abuse, devient haram. C'est tout. Le pain, vous en mangez, trois baguettes.
Trois baguettes.
Cinq baguettes, allez.
Non, trois. Non, trois que vous trempez dans votre soupe.
Non, c'est trop, trois baguettes. Je pourrais pas.
Je m'arrête à une.
Non, même pas une. Qu'est-ce que tu racontes, Philippe? Non, voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est illicite, si c'est exagéré et utilisé avec excès, ça devient détestable, bien sûr.
Alors, merci pour nuisible. Votre question, Lydia. Nora est avec nous au 01 53 48 3000. Nora, bienvenue.
Merci. Salam, Philippe.
Salam, Salam, Nora.
J'ai une question sur le mois de Shaban. Est-ce que c'est vrai qu'après le 15e jour, on ne peut plus jeûner jusqu'au Ramadan?
C'est vrai. Pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de jeûner et qui d'un seul coup se mettent à avoir envie de jeûner les 15 derniers jours du Ramadan. Là, on leur dit à ceux-là non. Par contre, ceux qui avaient l'habitude tout au long de l'année de jeûner le lundi et le jeudi, même si c'est après la première quinzaine, donc ils arrivent à la deuxième quinzaine et qui allaient lundi et le jeudi, ils ont droit de jeûner ces lundis et ces jeudis-là.
Mais si on a des jours à rattraper?
Là aussi, on peut rattraper les 15 derniers jours du Ramadan. Surtout là, il faut rattraper, puisqu'on n'a plus le choix, on a laissé passer le temps, mais on a quand même le droit de jeûner, de rattraper son jeûne durant les 15 dernières journées du mois du Shaban. Parce que c'est un rattrapage. Mais un jeûne surérogatoire, ce qu'on appelle un jeûne facultatif, que d'un seul coup vous êtes mis dans la tête, j'ai envie de jeûner pour m'entraîner à jeûner.
Pour me préparer, là, il y a.
Eh bien, non, on lui dira non. On lui dit stop, non, il faut marquer le coup entre.
Mais c'est quoi le statut? Alors, c'est quoi? C'est interdit?
C'est déconseillé.
C'est déconseillé.
Non, juste déconseillé. C'est pas interdit. D'accord. Par contre, ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour du doute. Par exemple, samedi, il a été décrété que, il n'y a pas Ramadan. Et donc il y a le doute sur ce jour-là du samedi qu'il n'y a pas eu l'annonce et que vous n'avez pas entendu et que vous avez commencé à jeûner ce jour-là. Là vous êtes en faute, vous êtes dans le péché.
Mais là le doute c'est vendredi. On peut jeûner le vendredi?
Non. T'as pas non le doute c'est pas vendredi, c'est le samedi le doute. C'est la nuit du doute. La nuit du doute c'est toujours la nuit qui précède le jour qui est concerné par le doute. C'est samedi où il y a doute, Philippe, c'est pas vendredi. Non. Vendredi c'est pas un jour de doute, d'accord? Vendredi, c'est
Philippe,
la nuit du doute. C'est la nuit qui précède le jour où on a un doute, jeûner ou pas jeûner. C'est samedi, pas vendredi. Vendredi soir, le soir, après le coucher du soleil, débute la nuit du doute.
La nuit du doute, c'est vendredi.
Soir.
Mais oui, c'est pour ça que c'est la nuit.
Mais non, mais toi, parce que dans la culture occidentale, le soir du jour, du même jour, ça fait partie du jour même. Alors que chez nous, à partir du moment où on parle du coucher de soleil, eh bien, ce moment-là appartient au jour suivant. Ce moment, après le coucher du soleil, qui débute la nuit, appartient au jour suivant, et non pas au jour qui précède.
Ma question, c'était de savoir si on pouvait jeûner le vendredi. C'était juste, c'était pas par rapport au doute. Est-ce qu'on peut jeûner le vendredi?
Globalement, jeûner la veille du jour du doute, je dis bien la veille du jour du doute, là, en l'occurrence, c'est un vendredi. Mais le problème, c'est que vendredi, déjà, c'est des conseils de jeûner tout seul.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Voilà. Non, mais si, par exemple, imaginons la veille du jour du doute, c'était un jeudi. Et que moi, j'ai l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Je jeûne.
Je vous ai posé la question pour le vendredi. Bon, allez, Nora,
parce que vendredi, toute l'année, c'est des conseils de jeûner seul. Voilà.
Vous savez, les jours blancs qui sont passés le 16, le 17 et le 18 mars. Ouais. Justement, le 16, j'ai fait Ramadan, et jeudi, j'ai pas pu le faire, et j'ai voulu le faire vendredi 18, donc le 15e jour de Shaban, et on m'a dit non.
Non, il fallait, vous pouviez jeûner le lundi 15, le jeudi 15, excusez-moi, le jeudi. Voilà, le jeudi 15, vous pouviez jeûner, oui. Le 15, on part du 15 Shaban. Le 15 Shaban, il aurait été judicieux de jeûner ce jour-là, il n'y a pas de problème.
Non, on m'a dit parce que j'ai fait le mercredi et pas le jeudi.
Malèche.
Je voulais le faire vendredi.
Non, parce que vous avez une raison valable de le jeûner. C'est le fait que ça soit les nuits de pleine lune. Ce sont les journées de pleine lune qu'on appelle Ayyam al-Bidr.
Donc tous les mois,
Vous pouvez jeûner deux ou trois nuits, trois jours, excusez-moi, dont la nuit est une pleine lune.
Est-ce Parce qu'on m'a dit que si j'aurais fait le vendredi, il faut que je fasse le samedi.
Non, si c'est pas des jours de pleine lune. Ça, c'est vrai si c'est pas des jours de pleine lune. On a perdu beaucoup de temps.
Et même le samedi?
Pareil, le samedi seul et le vendredi seul, si c'est pas des nuits de pleine lune, il est déconseillé de le jeûner. Seul.
D'accord, merci beaucoup et bon ramadan à tout le monde.
Merci Nora, bon ramadan à vous par avance. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous donc vendredi à 18h.
Et moi je répète à tous, mabrouk awashirkom. Il n'y a pas de problème, dites-le autour de vous, mabrouk awashirkom. Allah yabarak lana fi shahr ramadan. Allahumma ahillu alayna wa alaykum bil khayr wal baraka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.